Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le 17 décembre prochain aura lieu dans les rues de Strasbourg une chasse au trésor, la course Magnum. Je vais cacher dans les rues de Strasbourg 1, 2 ou 3 Magnum que vous pourrez gagner et mettre sur votre table des fêtes de fin d'année à Noël ou à Nouvel An à partager avec vos amis ou votre famille. Pour vous inscrire, rien de plus simple, duraisinetdespapilles.com, les réseaux sociaux du raisin et des papilles, ou tout simplement vous m'envoyez un mail, Mickaël, M-I-C-K-A-E-L, @duraisinetdespapilles.com. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations en description de l'épisode du podcast. D'ailleurs, qui dit podcast dit générique. On lance le générique et on se retrouve tout de suite avec l'épisode du jour. Est-ce qu'il t-
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue sur le podcast du Raisin et des Papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Je suis du côté de... comment dire, Molsheim, par là-bas, Vaslon. Je suis sur la voie romaine, celle qui allait de Saverne à Strasbourg. Alors, Strasbourg, elle passe par la Grand-Rue. Elle passait, puisqu'elle n'existe plus. Elle passait par la Grand-Rue et je suis dans l'une des cités fortifiées, qui date de l'Empire, qui date de l'Empire romain également. Je suis dans un beau petit village qui a encore des traces du Moyen-Âge, qui s'appelle Westhofen. Et à Westhofen, on a un vigneron que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, je connaissais ses vins, je connaissais moins le personnage et puis on a passé un dimanche d'été ensemble à Trenheim, chez Jean Dreyfus, à Pinot et Senot. On a passé un excellent moment. Et puis là, j'ai dit, allez, c'est parti, on fait un podcast. Nous sommes le 9 décembre, c'était la date qu'on avait mis sur le calendrier. Et je suis là avec Monsieur Love, Étienne. Salut Étienne.
Salut Mickaël.
Comment est-ce que tu vas ?
Très bien, froidement, mais heureux qu'il fasse froid.
Ouais, un petit peu trop froid, je trouve, non ?
Non, apparemment ce matin, on annonçait un record par rapport à la date du froid. On est début décembre, c'est normal qu'il fasse froid. Et un froid qui restructure, un froid qui déstructure les sols et qui permet d'avoir des sols de nouveau propres et avec une belle, un aspect grumeleux au printemps, c'est juste normal.
Oui, et de toute façon, après... On l'aura compris avec les débats du moment. En hiver, il fait froid. Oui, oui, ils ont tous découvert qu'il fallait baisser le chauffage, qu'il fallait mettre un couvercle sur la casserole. C'est magnifique quand même, non?
Ouais, c'est juste, il faudrait oui, qu'on se rappelle un peu des remarques de nos grands-mères qui nous disaient « ferme la porte, mets le couvercle, fais en sorte que la flamme ne dépasse pas de la casserole quand tu allumes le gaz ». Voilà, enfin des choses tout à fait normales qu'on avait perdues.
Non mais c'est bien parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, comme se laver les mains par exemple. On est obligé de nous dire ça. Enfin bref, nous sommes là pour parler de vin et vraiment parler de vin. Je te propose qu'on parle de toi, de ton domaine. De l'histoire du domaine, de tes terroirs, parce qu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de sols différents, dont un que tu as en commun avec la cathédrale de Strasbourg, un autre dont je veux vraiment qu'on parle, parce que tu es l'un des seuls à l'avoir, en tout cas moi, de ce que je connais, et puis évidemment, une petite dégustation, histoire de, voilà, de voir l'ampleur de ton harmonie, de tes musiciens finalement organiques. T'es plutôt à l'aise au micro, je crois, en tout cas de ce que j'ai entendu dernièrement.
On verra. Alors, je vais essayer de soigner ma timidité.
Oh bah ça va. Ah, tu es timide. D'accord. Bon, ouais, écoute. Hein.
Alors, ouais. Pour me présenter rapidement, le domaine a été créé en 1996.
Ouais.
J'ai une famille de... Oui, je suis issu d'une famille de viticulteurs qui faisaient du vin jusque dans les années 70. Mes parents ont décidé d'adhérer totalement à la coopérative dans les années 80. Et j'ai trouvé ça un peu frustrant qu'on puisse s'arrêter à la production de raisins et ne pas connaître davantage ces terroirs. Et... la viticulture n'a jamais été ma passion en tant qu'enfant. C'était plutôt la corvée du mercredi, c'était la corvée des vacances que d'aller palisser, d'aller rogner. Enfin bon, voilà, il fallait filer un coup de main. C'était tout à fait normal, mais voilà, on ne le faisait pas par plaisir. Ensuite, pour le lycée, on m'a inscrit au lycée agricole pour faire un bac S, enfin un bac D à l'époque, parce que c'était comme ça. Mais sans aucune motivation non plus. Et c'est justement là, avec des copains qui étaient dans la même situation que moi, j'ai appris à déguster, à connaître les terroirs. Mais voilà, les dégustations se faisaient clandestinement le soir sous la douche. Voilà, c'était pas officiel, mais c'était très marrant. Et ensuite, je suis allé à Beaune et ensuite à l'université à Dijon et je suis œnologue de formation. Mais de formation, voilà. Ça m'a permis de me décomplexer par rapport à cette influence parfois imposée par l'agrochimie œnologique de certains laboratoires ou de certaines usines et à connaître vraiment le fonctionnement ou la transformation de jus de raisin en vin. Donc ça me permet de me rassurer, ça me permet aussi de comprendre si je prends des risques en faisant des vins nature, s'il y a un risque réel ou non. Voilà, c'était une chose. Ensuite, c'est vrai que en France, quelquefois, on apprend le vin, mais on oublie qu'il faut aussi du raisin pour faire du vin.
C'est plus simple.
Et là, c'est... C'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et que j'ai également appris au lycée, c'est sûr. Mais à l'université, c'est vrai que la chimie, l'œnologie et la viticulture, parfois, ça manque de liaison. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans un centre de formation pour adultes. Et durant ces 10 ans, ça m'a permis quand même de rencontrer pas mal de monde, de vignerons de toutes sortes, aussi à travers la France et à travers le monde, de par mes stages ou mon travail aussi à l'étranger. Mais il faut toujours être curieux et voir ce qui se passe ailleurs pour mieux s'évaluer et mieux s'orienter. Moi, ce qui me motive au quotidien, c'est l'aspect critique ou la remise en question. Tous les jours, je me lève et je me dis, bon, il faudrait peut-être changer ça ou améliorer ceci. Et puis, on le fait. Et puis, tous les ans, il y a d'autres améliorations, d'autres critiques, d'autres... voilà. Et tous les ans, on se dit, l'année prochaine, ça ira mieux. L'année prochaine, j'aurai trouvé la recette miracle. Et on ne la trouve jamais. Voilà. Alors, le côté frustrant, peut-être, de notre profession, c'est... contrairement à un boulanger qui loupe éventuellement une levée ou qui loupe un fourneau, ben, la fois d'après, le jour après, au pire, il peut totalement changer, modifier, s'améliorer. Nous, quand on loupe un millésime, ben, il faut attendre au mieux une année. Et lorsqu'on loupe, par exemple, la mise en place d'un vignoble, la plantation ou la mauvaise adéquation cépage, porte-greffe, terroir, ben, on a loupé le coche pour 30, 40, 50 ans. Oh. Et parfois, on subit les erreurs de nos grands-parents, mais nous, on impose aussi des erreurs peut-être à nos petits-enfants. Voilà, donc, c'est le côté un peu frustrant. Mais pour moi, être vigneron, c'est avant tout la joie de pouvoir changer de milieu, de changer d'endroit, d'avoir un métier extrêmement... complexe, oui, mais très varié. On ne s'ennuie jamais. Et je dis toujours que je suis l'homme à tout faire parce que ben on est censé être partout et censé tout faire bien, ce qui est parfois un peu difficile, j'avoue.
Tu es un couteau suisse, c'est ça?
D'origine suisse, oui.
D'origine suisse,
la famille. Ouais.
Donc 96, c'est toi qui as créé. Donc t'es arrivé directement ici. Tu faisais quoi? T'as fait du bio depuis combien de temps?
En 96, installation, ouais. Nous n'avions pas de salariés à l'époque, oui. Donc j'étais seul. Mes parents avaient leur structure, puisqu'ils étaient encore loin d'être à la retraite. Il a fallu d'abord que je déguste deux vins alsaciens. Espacé d'une semaine, des vins en biodynamie. Et là, j'étais interpellé par ce que je percevais au nez et en bouche et les vibrations que ça me procurait. Parce que dans mon cursus scolaire initial, la bio et la biodynamie étaient enseignées sur 4 heures. Voilà. Sur 4 heures, sur toutes les années d'études. Et grosso modo, être en biodynamie, ça sous-entendait avoir les rastas, fumer des joints, être 68 heures attardé et faire des vins quand même qui ne se gardent pas et qui ne sont pas forcément beaux. Et là, en goûtant ces deux vins, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Je vois biodynamie, pas mal, mais ça doit être le hasard, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on me l'avait appris. Et puis ensuite, la semaine d'après, un autre. Et là, on se renseigne, on se forme. Et j'ai eu la chance, de par le centre de formation où je travaillais, d'avoir des formateurs, d'avoir des formations à ma disposition. Donc, on suit des formations. Et ensuite, de mettre en place des essais. Et là, on se rend compte que la biodynamie, ça n'est pas forcément une recette, c'est aussi un ressenti au quotidien et qu'il fallait que tout le monde travaille dans le même sens. Mes parents qui avaient encore un cheval dans les années 90, enfin début 90, étaient aussi ceux qui ont subi ces années chimiques de diuron, de simazine, enfin les produits interdits dans les années 60, mais pour lesquels on avait dit à l'époque, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de risque. Voilà, puisqu'on n'avait tout simplement pas les moyens de
mesurer.
Mais il
y avait quand même une tête de mort dessus, mais il n'y a pas de risque.
Oui, maintenant, oui. Et puis donc, en définitive, on a essayé de mettre en place des essais. Et c'est déjà par l'arrivée de Caroline, la naissance des enfants, où on s'est dit, ben, il faut peut-être voir le monde autrement. Et puis, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Quand on travaille dans une équipe, ensuite, elle s'est renforcée par l'arrivée de Vivien, qui était en licence de chimie avant et qui s'intéressait à la biodynamie. Et donc, on a mis en place de gros essais sur des coteaux nord, sur des coteaux sud, des parcelles coupées en deux, moitié bio, moitié biodynamique, pour voir effectivement s'il y avait une différence. Et dans les deux cas, on a clairement vu que la biodynamie ramenait davantage de profondeur, de finesse. Et de là, ensuite, on a signé. Parce que, comme Saint-Thomas, on voulait voir si effectivement ça ramenait quelque chose. Alors, ça ramenait quelque chose au niveau végétal, au niveau sol, mais aussi au niveau qualité des vins.
Mmh. Bien sûr. Et du coup, 96, donc biodynamie officiellement Demeter, ça fait bio des vins d'abord, je crois.
Alors, il nous a quand même fallu une dizaine d'années,
ouais.
Parce que j'étais seul sur l'entreprise,
okay.
Avec mes parents, qui n'avaient pas forcément d'abord cette vision. 10 ans où il a fallu créer le domaine,
oui.
Il a fallu développer le domaine.
Oui.
C'était des années où on a beaucoup planté, beaucoup grandi. Je bossais encore à l'extérieur et je ne pouvais pas concevoir louper la transition. Il fallait que tous les éléments soient réunis pour franchir ce cap. Donc c'est uniquement en 2007 où on a décidé d'essayer à très grande échelle. 2009, donc on était en bio et on a eu l'accord pour passer directement en Demeter parce qu'on a pu prouver notre passé.
Okay.
Et ensuite, bien plus récemment, Biodivin,
mmh.
Qui est pour moi quand même un groupe de vignerons passionnés non seulement par la biodynamie, mais aussi par la qualité des vins. Parce que pour moi, si on veut faire la promotion de notre façon de faire et de notre façon de travailler les sols et les vins, c'est avant tout par la qualité de nos produits.
Mmh.
Il y a parfois encore des gens qui nous disent « Ah oui, mais le bio et le biodynamique, ça ne se garde pas. Et puis, c'est pas bon. » Voilà, mais effectivement, il y a eu peut-être dans le passé ce style de profil. Tout ça a naturellement totalement changé. Et si on veut que les gens adhèrent, il faut qu'on soit exemplaire et que nos produits soient avant tout bons, tout en restant extrêmement sains et vibratoires.
Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, comme beaucoup de vignerons ont parfois l'impression, que plus tu travailles bien dans tes vignes, je mets des guillemets entre bien, alors souvent je disais propre, dans les vignes, bon, après, propre, ça peut être interprété de différentes façons. Moi, je parle de vin vivant, hein, que ce soit biodynamie ou nature. Pour moi, il y a de la vie, le vin évolue. Tu disais tout à l'heure, tu as ouvert un Crémant depuis lundi. Bah, entre lundi et maintenant, bah, à mon avis, il a évolué. On le sait, c'est ce que j'appelle de la vie. Est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois, tu es obligé de te justifier plus, toi, qui travaille, qui a une vision sur l'écologie, sur la qualité du vin, sur la qualité gustative aussi, et sur le fait de ne pas mettre de chimie du tout dans tes vins, par rapport à celui qui, que tu trouves en supermarché, chez Métro, ou pas loin d'ici, dans certaines coopératives.
Oui, on est obligé de se justifier, rien que par rapport à la méfiance des gens.
Oh.
Et là, par là, je peux vraiment confirmer que avoir un logo, un label, ça nécessite une certification, ça nécessite un contrôle pour être crédible.
Bien sûr.
Et du moins en France, enfin, on a quand même ces contrôles annuellement, de façon inopinée ou de façon avertie, mais dans tous les cas, si on a cette certification, c'est qu'il y a eu un contrôle Et là, par rapport à mon expérience, ce sont des gens quand même qui sont à la recherche de la moindre faille et on ne peut pas passer à côté. Donc oui, effectivement, on est obligé de montrer patte blanche, mais si on veut être crédible au niveau du consommateur, c'est un passage obligé. Mais ce que le terme que tu as utilisé, propre, effectivement, le terme de propre n'a pas la même signification chez tout le monde. Chez certains vignerons, propre, ça veut dire que du raie gras, la pelouse devant certaines maisons, bien chimique, bien engrais, bien désherbé, nickel, avec un désherbage parfait sous le pied, une vigne taillée au carré style touya. Pour certains, ça veut dire ça.
Oui, c'est ce que Théo Schlegel appelle les vignes Ikea.
Oui, tout à fait. Pour nous, propre, ça veut dire plutôt, oui, sain. Ça veut dire où on peut se promener pieds nus sans avoir peur d'avoir absorbé par la plante racinaire certaines substances ou certains produits. Et ensuite, des vins sains qui fermentent, qui ont de la vie et qui évoluent. Oui.
Après, il y a aussi dans les vignes une chose qui est incroyable chez vous. Alors, je t'englobe dans tous les vignerons que je connais. Cette réflexion aussi sur la biodiversité, on n'en parle jamais, la biodiversité dans la vigne. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est vrai que ces derniers temps, on voit des initiatives, que ce soit des nichoirs ou une réflexion sur le mulot ou sur le ver de terre. Donc en fait, et on peut parler des fleurs aussi finalement, ça fait partie de la biodiversité. C'est pas le vigneron qui est l'un des plus grands écolos du monde, au final.
Je pense que lorsqu'on est orienté en biodynamie, on ne peut pas faire de biodynamie sans prendre en compte l'aspect vivant, mais aussi l'aspect animal vivant. On parlait plus souvent de fumier, mais pour avoir le fumier, il faut un animal vivant au bout. Et c'est vrai que lorsqu'on veut une vigne qui ait un mouvement, qui soit une vigne qui soit vivante, nous, on a décidé de mettre en place des nichoirs il y a déjà bien longtemps, de laisser des buissons sur au moins les talus, on a le cormier, on a replanté énormément de figuiers, d'amandiers. Mon père est quand même, on est à Westhoffen. Westhoffen, c'est quand même un village, très arboricole. Et en parlant très fièrement de mon village, on est certainement le seul village sur toute la route des vins où cohabitent de façon magnifique vignes et arboriculture. Et l'agroforesterie a toujours existé. Maintenant, l'agroforesterie, tout n'est pas toujours aussi beau qu'on le présente. Mais effectivement, avoir ces arbres, avoir ces vignes qui cohabitent et avoir aussi des moutons, des vaches. Alors, on n'est pas encore arrivé au stade d'avoir des vaches sur notre domaine, mais on a une vingtaine de moutons qui broutent dans les vignes en hiver et qui sont ensuite mis dans les vergers ou sur les prairies en été. Mais c'est un ensemble de choses qu'il faut remettre en place pour éviter cette monoculture technologique de la vigne.
À noter, puisqu'on parlait d'agroforesterie, le formidable reportage qu'a fait David Keberle, qui vient de sortir sur YouTube, où il explique tout, parce que lui, il est vraiment fan de ça. Il donne sa vision, pourquoi il choisit des arbres fruitiers, pas fruitiers, sur certaines parcelles, en respectant aussi le vent, pour pas couper le vent. Enfin, il y a toute une réflexion qui a été faite. Ça dure 20 minutes, je vous le mettrai sur la page Facebook du Raisin et des Papilles, comme ça vous le verrez aussi, qu'il y a vraiment de la réflexion. Et je pense que c'est ça qui est assez magnifique, moi qui me balade souvent dans les salons en Alsace, c'est de voir cette réflexion, mais aussi ces échanges entre vous, les vignerons, vous grandissez ensemble. Il n'y en a pas un qui dit « je sais tout ». Non, vous savez tout, mais ensemble, parce qu'il y en a un qui essaye, tiens, moi j'ai envie d'essayer ça. Je pense que c'est aussi cette solidarité, cette bienveillance qu'il y a entre vous qui vous fait grandir tous, quoi, en final.
En définitive, il n'existe pas une vérité. Non. Il existe 36 000 vérités, parce que ce qui est vrai chez nous à Westhoffen, qui est en fait un grand amphithéâtre coincé entre deux vallées,
c'est vrai.
Notre vérité n'est pas celle qu'on aura peut-être sur Dambach, sur Berkheim ou sur Orschwihr. C'est à chacun de s'adapter. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'une année, on pense avoir trouvé la solution que l'année prochaine, elle sera toujours miraculeuse. Il faut sans cesse s'adapter. Donc, il n'y a pas, contrairement à l'industrie ou la viticulture technologique, il n'y a pas de process. Il faut juste s'adapter et ressentir le besoin de son milieu et de son terroir. Rien que sur le domaine, nos vignes sur le Grand Cru Altenberg ne sont pas du tout gérées de la même façon que celles qu'on a sur le Bruderbar ou sur le Stenberg, parce que la ventilation, l'hygrométrie, les sols ne sont pas du tout les mêmes.
Bien sûr.
Et ce qu'on fait dans l'un est peut-être néfaste sur l'autre terroir.
Bien sûr. Alors, on parlait d'animaux. Quand même, rendre hommage à tes petites tondeuses sur pattes qui se baladent dans les vignes actuellement. Tu as, comme Yann Durman, je crois, un petit troupeau de brebis.
Mm-hmm.
Des noirs, en plus.
On a des ouessants qui sont magnifiques. On a JP qui est le bélier. Et ensuite, on a Hilda, Trudy, Suzel et toute la panoplie. La descendance aussi. Et j'en profite pour lancer un appel pour ceux qui aimeraient éventuellement échanger des brebis, parce que notre JP, notre bélier de service, est juste adorable. Et voilà, donc on essaie juste, pour éviter la consanguinité, de renouveler de temps en temps les jeunes brebis de l'année. Mais effectivement, ces moutons nous amène ce côté vivant, ce côté animal dans les vignes. Et surtout, ils sont hyper autonomes. Ils sont juste faciles à vivre. De temps en temps, une biscotte, pour les saluer. Mais l'eau en pleine canicule, ils n'en veulent pas. Du foin, quand il y a de la neige, ils n'en veulent pas non plus. Ce sont des débroussailleuses hors pair. Et j'avoue que de temps en temps, un petit gigot issu de nos moutons, c'est quand même franchement de la viande qui a grandi, qui a évolué sur des prairies, sur des vignes propres, et ça donne de la viande extraordinaire.
Alors, quand on est chez toi, 13 hectares, c'est quoi les terroirs qu'on retrouve? Quels sont les cailloux, les roches qu'on retrouve sur les 13 hectares que tu as? Il y a du grès.
Alors, on a différentes familles géologiques. Westhoffen est dans ce trou, cet amphithéâtre coincé entre la vallée de la Bruche au sud, la vallée de la Mossig au nord, et accolé au fossé d'effondrement de Balbronn.
Okay.
Donc, le fossé d'effondrement de Balbronn, c'est un terme géologique où il y a accumulation de tout ce qui est marne. Marne rouge, marne verte, marne noire, avec du plâtre, du gypse. Et pour moi, c'est une des grandes particularités du secteur, c'est que, voilà, on a des vins naturellement très salins, salés. Et cette salinité, on ne la retrouve que sur encore un autre secteur viticole en Alsace, sur Riquewihr.
Hein. Okay.
Donc ça, c'est pour tout ce qui est les vignobles au sud de Westhoffen, donc Trenheim, Balbronn, Berbuiten, les expositions nord de Westhoffen. Ensuite, à côté de ça, on a le grès, le Bruderbar, qui est sur une ancienne voie romaine, mais également sur la voie de pèlerinage des Strasbourgeois qui allaient à l'époque sur l'abbaye de Niederhaslar. Et au bas du Bruderbar se trouvait donc l'ermitage de l'ermite Klaus qu'on voit sur nos étiquettes. Et là, on est sur du grès. Le grès qui a contribué, de par sa carrière à Notre-Dame, à construire une partie de la cathédrale de Strasbourg, mais aussi beaucoup d'autres édifices locaux. C'est une des particularités géologiques aussi du secteur, parce que le grès de bas en haut d'un coteau, le grès est relativement rare dans le vignoble. On en trouve grosso modo sur notre extrémité nord du vignoble alsacien, donc le Sand de Marlenheim, le Bruderbach de Westhoffen, et on en trouve ensuite sur Gebwiller, sur l'autre extrémité du vignoble au sud, avec quelques exceptions en centre-Alsace. Mais c'est un terroir qui donne des vins beaucoup plus verticaux, beaucoup plus lumineux, des vins plus en dentelle. Le grès, c'est quoi? C'est du quartz, c'est de la silice, un peu d'oxyde de fer. Voilà, ce sont des sols relativement pauvres, mais on est très caillouteux et toujours avec une possibilité de remontée capillaire de l'eau ou de réserve d'eau. Et c'est un terroir, même si on est exposé plein sud, en forte pente, très caillouteux, ce sont des terroirs qui ne souffrent pas de sécheresse. Ce qui est plutôt une qualité recherchée avec le réchauffement climatique, peut-être de plus en plus. Autrement, on a aussi l'Ostenberg. Là, on est sur du mouchelkalk, ouais. Mouchel, coquillage, calc, calcaire, sur des sols beaucoup plus durs, tout aussi raides que le Bruderbach, mais des sols où on a des calcaires actifs beaucoup plus marqués. Ça se ressent au niveau des vins, de par la largeur, des vins plus massifs, plus d'épaules, plus de bustes. C'est plus massif.
Mmh. D'accord.
Et puis, à côté de ça, on a également des vignes sur le Charard, sur le Zussenberg, la colline sucrée, où là, on est sur des calcaires, des calcaires oolithiques, des calcaires jaunes, beaucoup plus lumineux. Et on va dire que ce sont les terroirs les plus solaires qu'on ait sur le domaine. Alors, solaire, chaud, précocité ne rime pas forcément avec grandeur. Okay. C'est juste que les vins sont différents.
Oui.
Mais je ne donne pas d'ordre de qualité. C'est juste différent.
C'est quoi ton terroir préféré, si tu devais en garder un chez toi?
J'ai deux filles avec des caractères très différents et il m'est toujours difficile de choisir, donc je ne choisirai pas.
Comme pour les terroirs, tu ne peux pas choisir.
Non, j'ai du mal. Même si, en étant au Bruderbach, c'est un point où on a un regard sur presque 90% de nos vignes. Et si j'avais à choisir, peut-être, oui, le Bruderbach est quand même, pour moi, un des grands terroirs et qu'on aimerait faire évoluer peut-être dans une autre strate administrative. Mais c'est un autre sujet.
Sacré premier cru, quand tu nous tires. D'ailleurs, puisqu'on parle de sujet que fâche, est-ce que toi, tu trouverais logique et normal pour la transparence, puisqu'on parle tous de transparence, il faut étiqueter tout. Alors, deux questions là-dessus. Est-ce que ce serait logique et normal qu'on mette... Oui, il faut vinifier un peu nos cordes vocales. Est-ce que tu trouverais logique et normal qu'on mette... je sais que ça va être obligatoire en 2023, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Les ingrédients sur la bouteille de vin, est-ce que c'est bien, pas bien? Ma deuxième question est, est-ce que le village dont provient le raisin et qu'on appelle une cuvée, je sais pas, comme à Trenheim, Westhoffen, Dambach, est-ce que ce serait bien pour le consommateur, bien pour la transparence, puisqu'on parle tous de transparence? Voilà, est-ce que le fait de mettre le nom d'un village sur le vin, ce serait bien? Et est-ce que les ingrédients sur la bouteille, qui vont rentrer en vigueur, je crois, fin 2023, ce serait une bonne chose?
Les ingrédients sur l'étiquetage d'une bouteille ne me posent pas de problème. De toute façon, en ce qui nous concerne, c'est déjà le cas, puisqu'il y a le content sulfite. Nos vins sont certifiés Demeter et Biodivin, ce qui n'empêche pas de pouvoir utiliser un peu de soufre à des doses bien plus faibles que la norme pour les vins autres. Mais quelle que soit la quantité, même si on n'en rajoute pas, le vin contient des sulfites et donc on le met. Voilà.
Bien sûr.
Pour le reste, Moi, ça ne me pose aucun problème.
Tu n'as rien dedans, c'est ça? Tu n'as pas besoin d'un QR code, toi?
Non, effectivement, oui, certains auraient peut-être besoin d'un petit bouquin carrément accroché à côté. Mais effectivement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça donne de la lisibilité, de la crédibilité aussi. Si on n'a rien à cacher, montrons, affichons, voilà. Pour répondre à ta seconde question par rapport à l'origine, oui, ça me paraît dans la suite logique de la démarche qu'on a entreprise en 98, c'est d'avoir les appellations communales. Après, le découpage administratif, c'est un autre souci, mais nous produisons depuis 98 des Gewürztraminer Westhoffen, des Sylvaner Westhoffen, Pinot Noir Westhoffen, les trois cépages auxquels je suis très attaché. Mais on pourrait très bien l'imaginer pour tous les cépages. Si les vins sont produits sur le banc communal de Westhoffen ou même sur une entité géologique identique à celle de Westhoffen, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer certaines vignes de Westhoffen à Trenheim ou celle de Balbronn à Westhoffen, parce que ayant des vignes sur ces communes-là, certaines vignes de Trenheim ou de Balbronn sont plus proches de la cave que certaines vignes même de Westhoffen. Alors que Trenheim, Balbronn et Westhoffen ont, sur une partie du moins du banc communal, exactement la même exposition, le même sol, en définitive le même terroir. Mais ça c'est ensuite des questions de volonté politique locale et au-delà.
Allez, sur ces belles paroles, place à la dégustation.
Santé.
À Skilt.
Skilt.
Allez, on le fait bien. Et ouais, toujours Skilt, hein. On est en Alsace. Hein. En plus, dans les prochaines semaines, même si il sera diffusé début 2023, on aura trinqué pas mal. Donc, on va trinquer à vous. Ouais, je vous souhaite pas la bonne année maintenant. Hein. On le fera en temps et en heure.
Je viens de servir notre crémant, 36 mois de latte, nature, donc triple zéro, pas de chaptalisation, pas de dosage et pas de soufre. C'est un crémant qui est ouvert de 4 jours ou 5 jours. J'avoue que là, on arrive en fin d'effervescence, mais c'est pour montrer aussi que notre crémant, ça n'est pas qu'un support à bulles, il y a du vin. Et là, ce que j'ai en bouche, c'est du vrai vin.
C'est très vineux. Il y a un côté, ouvert depuis quelques jours, on le sent, côté un peu oxydatif, mais moi qui ne me dérange pas, qui est encore agréable, il y a du jus, on sent que le chardonnay est là, hein, il est présent, mais je crois que c'est du pinot blanc que tu assembles avec, hein, c'est ça?
Oui,
pour la fraîcheur, c'est ça?
On est sur un assemblage de pinot blanc et de chardonnay,
ouais.
Vinifié partiellement en demi-muit. Et ensuite mis en bouteille et laissé sur latte pendant 36 mois. Le pinot blanc, pour moi, me ramène la verticalité, la fraîcheur, aussi l'opulence, et le chardonnay, plutôt la finesse.
La finesse, oui. La gourmandise aussi, un peu une gourmandise. Dans...
Oui, c'est vrai. Et surtout, quand...
Ah, il est capable de tout faire.
Bien.
Cet homme est capable de tout. Il a ouvert une bouteille... Tout en me parlant, c'est magique, les vignerons sont magiques.
La polyvalence du monde viticole.
Ah, la polyvalence. Et alors juste, hein, parce que je sais qu'il y a une autre cuvée nature, c'est quoi? C'est pour te rappeler ta jeunesse de 1968 que tu taquinais un petit peu avant? Tu étais fan des Beatles ou quoi?
Alors, la plus mélomane dans la famille sur le domaine, c'est certainement Caroline. Qui a trouvé l'habillage et l'étiquette effectivement Beatles.
C'est vrai que t'as pas trop la coupe des Beatles.
non. Mais on voulait quand même quelque chose d'un peu funky, d'un peu original, sortant de la rigueur de notre étiquette pour la gamme classique.
Moi, il y a quelque chose qui me plaît dans ton crément et qui me plaît de plus en plus sur les créments, c'est la finesse de la bulle. Ce qui me fait dire que parfois, aujourd'hui, je
trouve qu'en Alsace, l'écrement de ce que nous on boit, les gens qui sont dans le podcast ou qu'on rencontre ailleurs qui ne sont pas encore dans le podcast, c'est la qualité de la bulle, la finesse, la gourmandise qu'il y a dedans. Et je trouve que ça fait, pour moi, tu fais l'un des plus beaux créments. Et Dieu sait que j'ai été difficile avec les créments, j'en buvais plus. Et c'est vrai que ce monde, la biodynamie du nature, m'a réconcilié avec ce breuvage que j'aime de plus en plus.
Merci. Oui, pour faire du crément, ça nécessite avant tout des raisins de qualité, des raisins mûrs et du temps. Lorsqu'on a les deux éléments, on arrive à faire des créments de très haut niveau, mais il ne s'agit pas de vouloir sortir son crément au bout de 12 mois. C'est avant tout la patience, mais c'est comme pour les autres vins aussi, ou pour un boulanger lorsqu'il fait son levain, lorsqu'il fait monter la pâte et la cuisson, ça demande du temps. Voilà, la patience.
36 mois que tu changes tous les jours à la main ? Ou tu as une machine qui...
Non, alors effectivement, durant l'élevage sur latte, la bouteille est couchée. Okay. Elle est laissée totalement au repos.
D'accord.
Et c'est au moment du dégorgement,
qui
est 10 jours avant, où là, on remue. Mais c'est quelque chose qu'on fait juste en dernière minute.
D'accord.
Voilà, c'est juste pour décoller le dépôt.
Oui.
Au fond de la bouteille.
D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on continue la dégustation.
On va voir un canon, hein ?
Ouais. Le deuxième vin est le jus sorbet. Jus sorbet, c'est notre vin de macération, notre vin orange en 2021. Et c'est une macération de Sylvaner et de Riesling avec rajout de jus de Gewürztraminer dès la mise en macération des raisins blancs. Donc, on est sur le principe de vin orange, mais sans avoir beaucoup de couleurs, mm-hmm. puisque les raisins macérés étaient blancs.
D'accord.
Le Gewürz, on a décidé de le presser et de le rajouter durant la macération. D'une part, parce qu'en 2021, on avait très peu de Gewürz, gel, mildiou, botrytis. Et les raisins, au moment des vendanges, étaient magnifiquement botrytisés, mais impossibles à utiliser pour la macération. Donc, on a décidé de presser tout de suite et de ramener ce jus sur les raisins qui macéraient.
C'est vrai que la cuvée précédente était plus orangée, non ?
Totalement.
Ouais.
Mais en 21, millésime quand même pluvieux, froid,
ouais.
avec beaucoup, beaucoup de problèmes, on n'a pas eu les mêmes raisins qu'en 2020. C'est vrai que la cuvée jus sur baie, c'est un peu la cuvée qui permet cette façon de s'adapter en millésime chaud ou de millésime froid, d'adapter la vinification en fonction des raisins qu'on a.
Deuxième fois perdu. Allez, on recommence. Donc, deuxième vin, nous sommes sur jus sur B, mais dis-moi.
Jus sur B.
Il est moins orange que millésime précédent. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, tout simplement parce qu'on a changé les cépages. En 2020, on avait fait macérer du Gewürz avec rajout de Sylvaner et de Pinot Blanc. En 2021, millésime avec du mildiou, du gel, du botrytis, on a décidé de faire l'inverse.
Vous allez faire un forfait illimité de problèmes.
Oui, il a fallu vraiment jouer un minimum la sécurité, surtout que les Gewürz étaient à des rendements de 10-15 hectolitres hectares.
D'accord.
Avec du beau botrytis.
Ouais.
On n'allait pas encore jeter la moitié par terre pour ne faire macérer que les raisins entiers, sans botrytis. Ouais. Donc, on a fait macérer Sylvaner Riesling et on a rajouté le jus de Gewürz par-dessus. Et en définitive, on a un vin jaune or, mais sans reflet orange, parce que le Sylvaner et le Riesling ne diffusent pas de couleurs. Ce sont des raisins verts et jaunes. Mais on a ce côté... ce vin a trois facettes. On a ce côté aromatique, épicé du Gewürz au nez et surtout en fin de bouche.
Ouais.
Mais il y a la minéralité, la colonne vertébrale du Riesling avec ce côté soyeux, ce côté foin du Sylvaner.
On a une gourmandise. On a une gourmandise et... Alors, dans les souvenirs que j'avais du 2020, celui-là est plus fin. Il y a une plus grande finesse. Je trouve que c'est... il y a une finesse, une gourmandise. Il y a une aromatique qui est incroyable. Le côté minéral et l'aromatique vont bien ensemble. Il y a une belle égalité. Les trois cépages s'harmonisent parfaitement, en fait. Même si en fin de bouche, oui, forcément, le côté floral du Gewürz Raminaire, forcément, l'emporte parce qu'il y a c'est un peu le côté. Souvent, les gens. Ah, mais c'est du sucre. Non, non, c'est le côté floral. Et ça, on peut pas tromper le côté floral du Gewürz. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est d'ailleurs par ce vin-là que j'ai vraiment découvert ton domaine en disant ah, ouais, quand même, ça se fait ça. Il y a eu Menhir aussi qui m'avait plu, mais c'est vrai que celui-là, je trouve que c'est un très beau vin. Et vous voyez, ça c'est le genre de vin qu'il faut mettre sur les tables à Noël, ça passe très bien. Là, je me dis, avec des petites huîtres naturelles, ça passerait. Hein.
Avec des huîtres ou tous les légumes d'hiver, les légumes oranges. On parle toujours d'accord mets et vins, mais je parle aussi de mariage de couleurs. On est sur un jaune bien marqué,
oui,
tirant légèrement vers des notes orangées, même oui, si on n'est pas orange en tant que tel. Mais sur tout ce qui est des notes curry, safran, courge, butternut, toutes ces saveurs-là se marieront à merveille sur ce style de vin.
Purée de panais, ça passe bien aussi.
Oui, c'est clair. Oui, parce que le panais aromatiquement est puissant et avec le Gewürz épicé, ouais, c'est juste top.
Ou même que beaucoup ne savent pas ce que c'est quand je le prononçais, mais que moi, c'est un de mes plats préférés, c'est navets salés.
Oui. Les navets salés, je trouve qu'en hiver, quand tu es froid, comme aujourd'hui, avec un peu de charcuterie quand même dessus, et souvent, il y a un peu de cumin,
ouais,
voilà, sur ce style de vin.
Beaucoup la choucroute, mais le navet salé, c'est quand même... Hein,
oui, oui. Ça...
Si je regarde.
Ouais,
mais c'est les petits plats. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire ce podcast-là, parce que finalement, ça nous renvoie à ce qu'on aime, notre Alsace, qui est belle, qui est magnifique, qui est extraordinaire. Et voilà, et on rencontre des gens extraordinaire des artistes, souvent Théo me dit mais moi je suis pas un vigneron, je suis un paysan à 22 ans, et il assume de dire qu'il est paysan. Moi je trouve ça juste magnifique, donc moi je suis fier de mettre en avant des paysans. Troisième vin. Bah écoute, on peut passer sur la demande. C'est le Manet Rouge, c'est tout là ouvert. Non, ah, t'en as plus. Bon, bah, Seb, on parlera du Sylvaner Rouge quand on aura envie d'en parler. Oui, bah, ça, ouais, bah, j'aime bien. Mais on ne l'enregistrera pas. Ce sera mon petit secret à moi.
Ah non, bah, écoutez,
Ouais. Alors là, je crois qu'on va partir sur un duo de Riesling, mais sur deux terroirs différents. C'est bien ça ?
J'aime bien faire déguster les deux ou trois terroirs du même niveau dans notre rubrique premier cru.
Ouais.
Le Riesling Bruderbach sur du grès.
Ouais.
Le Riesling Ostenberg sur du Muschelkalk.
Ouais.
Et le Riesling Zussenberg en galets de calcaire oolitique.
Okay.
Trois terroirs radicalement différents. Les trois sont exposés plein sud, mais en définitive, on aura des vins avec une autre minéralité, une autre structure en bouche. C'est intéressant de voir que l'homme n'y est pour rien, que c'est juste le terroir, la géologie qui façonne les vins différemment.
C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vouloir acheter des Riesling, des Sylvaner, parce qu'un Riesling à Westhoffen et un Riesling à Dambach, ben, c'est pas le même Riesling parce que c'est pas le même terroir. Déjà, le nez me plaît beaucoup.
Riesling Bruderbach, le des frères en 2020. Un Riesling qui est construit sur la verticalité, sur l'élégance. Je trouve que le Bruderbach donne toujours des vins très ciselés. En style architectural, c'est la flèche de la cathédrale. C'est pointu, c'est de la dentelle, c'est de la finesse. Oui, on est sur du grès, comme la cathédrale, mais c'est que de l'élégance.
Une caresse, hein.
Oui.
Caresse le palais, là. Là, ça part... si on faisait une dégustation géosensorielle, on dirait que ça part de la joue droite vers la joue gauche en faisant un petit détour sous la langue. Et pour revenir sur la langue, en fait, il y a toute la bouche qui s'allume. C'est ça qui me plaît dans le grès, cette espèce de caresse. Par contre, je trouve qu'on a on sait que c'est du grès parce que tout à l'heure, on parlait du côté de Guebwiller, il y a du grès, etc. Mais les caractéristiques sont là quand même. C'est souvent la même chose, l'élégance, la finesse.
Oui.
La caresse, le côté un peu velours.
Oui. On est peut-être plus proche du Spiegel avec cette élégance, ce velours, avec une spontanéité, ce côté velours. On sent quand même qu'il y a de l'argile. Là, on est sur des sols dans le secteur peu riche en argile, mais on a quand même 15 à 20% d'argile. Voilà, ça n'est pas un vin construit que sur l'ossature quartz, mais il y a aussi de l'argile qui étoffe.
Je trouve qu'il est très méditatif, ce vin. T'as envie de fermer les yeux et juste vivre le moment présent, quoi.
Oui, surtout qu'on est sur un Riesling qui, d'apparence, paraît assez facile d'approche. On a cette spontanéité aromatique, mais qui change fondamentalement ensuite en bouche, parce qu'on part d'un vin assez fruit, assez facile, sur une vraie minéralité très fine et persistante en bouche.
Moi, je trouve ça très, très sympa. Là, pareil, c'est là. Alors, on est plus sur un vin. Alors, même si j'aime pas trop les étiqueter, parce que pour moi, tout doit être des vins de copains et tout peut être gastronomique aussi. Mais là, on est plus sur un vin de famille, de partage, de repas familial, etc. Maintenant, si vous avez envie de l'ouvrir juste pour vous et de vous faire plaisir, qui je suis pour vous dire de ne pas le faire? Et faites-le, mais on est sur un autre. Je dirais que ceux d'avant, à l'Unid is Love, je me mettrais plus sur le vin de copain que tu as envie d'ouvrir là, pour partager un côté un peu. Là, celui-là, tu as plus envie de faire un repas un peu plus élaboré, un peu plus gastronomique. Un petit saumon, par exemple.
Sur une Saint-Jacques poêlée.
Saint-Jacques poêlée, oui.
Sur des langoustines, des crevettes. Un homard, pourquoi pas. Hein.
Monsieur a faim.
Toujours. Il faut les bonnes choses. Le deuxième vin est un Riesling Ostenberg. On file sur le coteau, juste à côté du Bruderbach, à quelques centaines de mètres. On est sur du Muschelkalk, du calcaire coquillé.
Sana.
On est sur un Riesling beaucoup plus massif, avec plus d'épaule, plus de gras. C'est un Riesling qui est peut-être moins avenant au nez. Par contre, en bouche, ça remplit totalement le palais.
Bah, le nez, on sait que c'est du Riesling. Hein. Ça, on a côté agrume qui est bien présent, qui est vraiment un guicheur. Après, en bouche. Quoi. Ouais, mais le silence, c'est bien aussi. Dans un podcast, de temps en temps, ça amène autre chose. Et de temps en temps, j'aime bien goûter un vin un peu dans le silence. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des vins, mais on écoute moins les silences, en fait.
Oui.
Ça peut être agréable. Alors, c'est vrai que c'est du mouchelcalque. Hein. Il va droit, il file droit. Là, avant, on était sur la caresse, le velours. Là, lui, il est plus sur la caresse, le velours. Il est droit devant. Il est là. C'est un peu, il a un peu un ego, hein, lui. Hein, disant les copains, ok, j'existe. C'est un peu l'ado qui va tout faire pour qu'on le remarque, quoi.
C'est un peu plus démonstratif.
C'est ça.
Et un peu fougueux, un peu fêtard.
Ouais. Mais c'est bien parce que les deux, ils ont une personnalité. Et vous voyez, là, on a goûté deux Riesling avec... Ah, c'est le même raisin. C'est pas un Riesling différent, c'est le même raisin. Sauf que le terroir est totalement différent. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est cette créativité que vous avez tous. Et j'ai l'impression que... d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de créativité quand on parle de terroir ?
C'est difficile de parler de créativité lorsque on est sur un cahier de charge bien défini, bien... assez figé. En fait, je parle plutôt de créativité lorsqu'on essaye d'amener au mieux ou de faire exprimer au mieux le terroir. Ensuite dans le verre. C'est trouver le meilleur moyen pour arriver à exprimer au mieux le terroir. Soit par les vinifications en amphore, soit en barrique, soit en faisant des macérations, soit en faisant des vins nature, de toutes sortes. J'appelle pas ça vraiment de la créativité, mais c'est juste trouver une voie qui permette de faire ou de produire les vins les plus fidèles du terroir.
Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que les vins nature, les assemblages, c'est plus de la créativité. C'est là vous êtes moins, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais vous êtes moins enfermé dans le cahier des charges, et donc ça vous permet d'être un peu plus alchimiste, de faire des tests, des choses qui vous plaisent ou pas et qui réussissent ou pas. Non,
oui, tout à fait, mais l'assemblage est autorisé dans le cahier des charges.
Ok.
Donc, il n'y a pas de problème. Les macérations...
Il y a un peu plus grand débat, c'est ça ?
Il y a un débat qui s'ouvre.
Ouais.
Un débat qui va s'ouvrir très prochainement, il me semble. Et je pense qu'il a vraiment lieu d'exister, ce débat. Bien parce sûr. Que lorsqu'on a commencé à faire des macérations en 2018, je pensais... En discutant avec mon père, qu'il allait me dire « Ouais, encore une de tes idées, mais bon, vas-y quand même. » Et quand je lui ai exposé ce qu'on allait faire, il me dit « Bah oui, mais c'est rien de neuf. Ça a toujours existé en Alsace. On a toujours fait des macérations. » Parce que dans une région viticole, mais avant tout de polyculture élevage, parce que les régions viticoles à 100% n'ont jamais existé. Parce qu'il a toujours fallu... un cheval pour tirer la charrue, il a toujours fallu des vaches pour ramener le fumier et pour faire du fumier pour les vignes, il a toujours fallu des prés pour nourrir le cheval et les vaches, il a toujours fallu des champs pour nourrir le cochon parce que le jambon du cochon permettait d'alimenter les vendangeurs. Enfin, c'était tout un équilibre. Et donc, quand on vivait dans une ferme ou dans une cave de polyculture élevage, la vigne, c'était un élément parmi d'autres. Donc, on ramenait le raisin qui était, enfin, on ramenait les raisins d'abord sur la remorque, mais comme on n'avait pas le temps et le trajet à dos de bœuf ou de cheval n'était pas aussi rapide qu'en tracteur, bah la cuve était en place du matin jusqu'au soir. Pour gagner de la place sur la remorque, on foulait les raisins. Les raisins foulés étaient mis dans une cuve, macérés. On arrivait à la maison, ben, il fallait traire les vaches. Ah oui, il fallait aussi nourrir les cochons. Il fallait nourrir le cheval, il fallait sécher le cheval, puisque éventuellement, il n'avait plus durant la journée. Et les raisins continuaient à macérer. En plus, avec le pressoir manuel, on n'arrivait pas à extraire le jus aussi bien. Donc, durant toute cette macération, les enzymes naturelles du raisin faisaient que, voilà, travaillaient et on arrivait à extraire des tanins, de la couleur. Et puis, on mettait éventuellement le lendemain matin, après la traite du matin, les raisins sur le pressoir. On pressait une première fois avant de retourner aux vignes, mais il y avait aussi à récolter les betteraves, puisque les betteraves étaient à récolter aussi à l'automne, et ainsi de suite. Donc, on pressait sur 2 ou 3 jours. Et durant tout ce temps, ça macérait, ça continuait. Et en définitive, on faisait que des vins jaunes, des vins oranges, issus de macération naturelle. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réétudier. Voilà, qui fait partie de notre patrimoine, qu'on avait peut-être occulté pendant quelques décennies. Mais je pense que pour certains cépages, c'est juste un salut parce que ça nous permet déjà de faire des vins de très belle gastronomie, tout en étant sec et fidèle à ce que nos papilles attendent.
Et est-ce que tu pourrais imaginer que dans quelques années, tu plantes une cuverie, que tu fasses des amphores, des œufs, une amphore de grès, d'autres façons de vinifier qui se font de plus en plus aujourd'hui? Et est-ce que tu as envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles approches?
Cette année, la cuvée Pinot Gris Le Menhir est donc vinifiée en 5 contenants binaires différents. En cuve inox, en demi-muit, en barrique, en amphore et en œuf.
D'accord.
Pour voir dans quelle voie on risque peut-être d'évoluer dans le futur.
Okay.
À l'heure actuelle, c'est clairement l'œuf et les demi-muits qui me plaisent le plus.
Okay.
On est au stade fin de fermentation alcoolique, début fermentation malolactique. Voilà, c'est en train d'évoluer. Ce que je dis maintenant, ce que je préfère maintenant, n'est pas forcément la même chose dans 5 ou 6 mois. On verra. Mais en tout cas, je pense qu'il faut étudier sans cesse à des évolutions de notre façon de faire, toujours dans le but d'en sortir quelque chose marqué terroir et fidèle à nos envies.
Bah, de toute façon, en même temps, il y a tellement de possibilités, donc autant en profiter. Et ce qui fait aussi la force d'Alsace, c'est que tout le monde essaye un petit peu, donc on peut goûter plein de choses. Que penses-tu de... Est-ce qu'un vin d'Alsace se garde bien, à ton avis?
Alors, si on va commencer à parler
Du tête qui m'a fait,
là récemment, on a fait un repas sur 25 millésimes de Gewürz. C'était juste grandiose. Alors, on parle toujours de Riesling, mais là, c'était juste mettre en avant les Gewürz. Enfin, pour moi, c'est juste extraordinaire à quel point les vins d'Alsace peuvent vieillir. Pour les 25 ans du domaine, on avait ouvert 3 verticales. La première en Gewürz-Ostenberg, la deuxième en Sylvaner et la troisième en Riesling-Bruderbach-Clos des Frères. Franchement, c'était juste magnifique. Quand on ouvre des 97, des 98 ou 19 qui sont encore pleins de fruits avec... Ouais, et plein d'avenir encore. C'est juste extraordinaire. Alors, oui, c'est vrai que certains disent que les vins d'Alsace ne vieillissent pas. Ce sont peut-être aussi ceux qui disent que les vins d'Alsace doivent être servis froids ou frais, glacés même. C'est juste des gens qui ne méritent pas de vin d'Alsace, parce que les vins d'Alsace sont de grands vins qu'il faut carafer, qu'il faut laisser vieillir et qu'il faut servir juste à bonne température. Et pour moi, une bonne température se situe suivant les saisons entre 9 degrés en été et 13 degrés en hiver.
Voilà. Alors, je peux témoigner que les vins d'Alsace vieillissent très bien. J'ai goûté la première cuvée de Jean-Pierre Frick. Quelle année, à ton avis ? La première cuvée bio.
Dans les années 70 ?
81.
Ah, 81, oui.
81, son premier Vorbourg. C'était quelque chose, quoi. C'est le genre de choses que ce petit cadeau-là, c'était je crois qu'il lui reste 4-5 bouteilles, quoi. Et il avait ouvert parce que j'étais venu et il trouvait ça extraordinaire. Mais je trouve ça génial. On va passer doucement à la dernière partie avec les petites questions comme ça. Tu sais, tu me connais, hein, je peux être un petit peu taquin. Est-ce que tu aimes qu'on t'aime?
Oui. je m'attendais pas du tout à cette question, mais oui. On essaye toujours de faire des vins qui vont forcément être appréciés. Et si les gens apprécient nos vins, c'est qu'ils nous aiment aussi. Mais je ne fais rien pour que les gens m'aiment. Je fais plutôt des vins où je rapproche plutôt les gens qui m'aiment tel que je suis. Il m'est arrivé de vouloir jouer au winemaker à la californienne. Ça a toujours loupé. Faire des vins qui ne sont pas fidèles aux vignerons, soit on change de monde, soit on a perdu son âme. Mais je fais les choses telles que je les ressens. Et donc, les gens qui m'aiment, ou qui aiment plutôt mes vins, se rapprochent de moi naturellement. Et les autres qui n'apprécient pas, trouveront peut-être plus ce qui leur convient ailleurs. Voilà. Mais je ne leur en veux pas.
Si tu devais être un vigneron en Alsace, évidemment pas toi, tu voudrais être qui ?
Il y a des vignerons qui m'ont beaucoup inspiré. Et quand je parlais des vignerons en biodynamie qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait m'orienter vers la biodynamie, c'était clairement André Ossertag et Marc Reinweiss. Ce sont deux domaines que j'apprécie encore toujours. Pour moi, ce sont deux grands domaines de qualité. Alors, à côté de ces deux domaines que j'apprécie, il y en a d'autres que j'apprécie aussi énormément. Le domaine Albermann fait pour moi partie de ces grands, grands domaines. On va dire que tous les vignerons Act, Alsace Cru Terroir, sont pour moi un groupement de vignerons qui est éclectique, mais qui est qualitatif, qui respecte différents styles, différentes mouvances, mais des vins que j'aime.
C'est quoi le dernier coup de cœur vin que tu as eu ?
On en boit tellement que j'ai...
Ah bon?
Non. En coupe, parce que c'est pas alsacien.
Non, mais c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être alsacien. Enfin, t'as le droit de boire autre chose que de l'Alsace. Hein. Je ne suis pas un intégriste.
Non, c'était un Riesling allemand.
C'est très bien. T'as le droit.
T'as coupé, là.
Ouais.
Merde. je pense que parmi les Riesling qui m'a le plus interpellé, c'était peut-être un Riesling, un VDP allemand en biodivin Renaissance de Peter Jakob Kuhn. Là, je me suis dit, waouh, c'est Grosse Lage, c'est Erste Lage, c'est juste topissime à quel point. Dans certains vignobles qui sont assez rudes, mais de super grands terroirs avec de super grands vignerons, en biodynamie, on arrive à faire de grandes choses. Alors, si on va aller sur dans d'autres directions, effectivement, là, on a goûté des pinots noirs aussi allemands, mais on est en perso, on boit beaucoup de vin, mais on n'a pas de chapelle. On essaye, c'est clair, on boit que des vins propres. Alors, c'est pas par intégrisme, c'est par vécu. Parce qu'on veut des vins digestes, on veut aussi travailler après la dégustation, le lendemain.
C'est plus agréable, ouais.
Ouais, et donc on recherche juste des vins propres et des vins de qualité, et on est ouvert à tout. Et là, récemment, il y a un collègue de la Rioja qui est venu, il y a des collègues toscans ou... Des gens d'un peu partout. Là, avec l'équipe, j'ai préparé une petite sélection de vins à l'aveugle souvent pour voir ce qu'on aime sans préjugés, sans rien.
Avant l'amour, tu bois quoi ?
Ah bon ?
Avant l'amour, tu bois quoi ?
Souvent une bulle.
Mmh. Après l'amour ?
Une seconde bulle.
c'est bien, on parle souvent d'un café, d'un schnapps, non ? Et qu'elle reste
non,
dans les bulles.
Non, j'ai plus besoin de ça.
Et il continue de rouler en bulle. C'est quoi le dernier coup de cœur artistique que tu as eu ? Parce que c'est quoi l'univers artistique d'Étienne Leve ? Musique, film, série, livre ?
Alors, j'avoue que au niveau film, je ne passe pas trop de temps à lire. Je suis plutôt artistique tableau, expo. Okay. Dans la famille, on a eu mon grand-père qui était un artiste de son époque, aquarelle et autres. Personnellement, je dessinais aussi pas mal, fusain et couteau, des nus.
Uh-huh.
Mais c'est vrai que quand on a une vie professionnelle bien chargée, où on essaye aussi d'être un peu artiste, parce que un vigneron, est un peu artiste, j'ai perdu totalement ce côté peinture ou c'est à mon regret. Ouais, c'est, alors je ne dis pas qu'un jour je ne reprendrai pas un fusain en main ou un couteau en main, mais dans la famille on a toujours cultivé ce côté création, sculpture, ou mon père sculptait aussi beaucoup le bois à une époque. Peut-être un jour, lorsque j'aurai moins de responsabilités professionnelles, je pourrai me réorienter vers le dessin. Ouais, ça fait 20 ans que j'ai plus dessiné, mais ça durera certainement plus 20 ans, le temps que je reprenne de nouveau quelque chose en main pour créer quelque chose.
Et pire. Avant-dernière question, si tu devais conseiller 3 bouteilles, comme une carte de visite.
Du domaine,
ce serait quoi ? J'ai pas dit que c'était des questions faciles. Hein.
Oui, effectivement, c'est pas évident. C'est comme s'il fallait que je choisisse entre 3 enfants ou voilà. En définitive, on pose souvent la question des gens qui veulent offrir un petit colis. Tout dépend alors de l'orientation, de la recherche, de ce qu'on veut mettre en avant. Lorsqu'on parle de terroir, j'aime bien provoquer la chose et proposer 3 Riesling issus de 3 terroirs différents, ou 3 Gewürz de terroirs différents, ou alors de gammes différentes. Par exemple, un Gewürztraminer Westhoffen, un Gewürztraminer Ostenberg en premier cru, et un Gewürztraminer grand cru, pour montrer la concentration en matière sèche en crescendo. Ou alors, jouer la complémentarité. Proposer un crément, proposer un muscat sur l'éclatant, sur le fruit, mais totalement sec et minéral. Et pour finir, pourquoi pas sur un pinot gris un peu plus opulent et un peu plus gras. Mais on peut aussi jouer le grand classicisme Riesling, Pinot Gris, Gewürz. Là, franchement, on a la chance d'avoir 36 000 terroirs, des styles de vin assez complémentaires pour convenir ou pour répondre à une attente de toujours.
Et si tu devais me faire ton plus beau gueuleton, je voudrais que tu me fasses ton plus beau gueuleton pour finir. Avec qui tu manges? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Et où?
Alors, l'endroit, pour moi, c'est clair. C'est quelque part dans la vigne au Bruderbar, que ce soit autour du menhir, soit sous la forêt ou sous les arbres au fruitier en haut du Bruderbar. Parce que c'est juste un endroit apaisant, calme, avec le bruit de la forêt, des bêtes et les moutons autour, c'est juste un lieu de rêve. Ensuite, des bouteilles, alors là, ça va dans tous les sens. Il y a des rouges légers, des rouges massifs, des blancs tendus, des blancs un peu plus rondelés. Il y a vraiment de tout. Mais je pense que durant un repas ou durant un moment passé entre potes, tous les goûts sont dans la nature. Il faut juste trouver le bon moment et la bonne qui. Voilà. Et dans ma cave perso, il y a un secteur où voilà, il y a des bouteilles prêtes à boire. Des bouteilles que j'ai envie d'ouvrir. Et donc, je prends les bouteilles. Voilà. Après, effectivement, il y a peut-être des orientations quand même plutôt sur des vins qui ont de l'acidité. J'ai toujours été attiré par l'acidité, même si j'adore les gros gâteaux, la grosse crème et tout ça. Mais c'est vrai que l'acidité, c'est quelque chose qui me permet de reprendre une gorgée, de reprendre un verre, de reprendre une bouteille. Et voilà, c'est juste du plaisir. Les gens, ben, des gens de tout horizon, de toute culture. Il y a, j'ai des amis avec lesquels j'aime passer une soirée, de toute croyance, de toute origine, enfin, voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait quand même un lien. C'est la nourriture et le vin. Il y a quand même ce ciment qui fait qu'ils sont devenus amis.
Donc tu es aussi toi un défenseur de la convivialité comme moi?
Oui, ben, en fait, sans convivialité, je pense que la vie est rude et c'est triste.
C'est ça. Ben, c'est ces propos conviviaux que le micro va s'éteindre dans quelques instants. Je te remercie pour cet accueil, comme toujours. Alors, on va passer encore du moment ensemble et en off. Oui, et j'ai envie de me garder aussi des moments que je n'enregistre pas forcément. Le confinement a fait qu'on a un peu enregistré beaucoup et de temps en temps, j'aime bien me garder mon petit jardin secret. Et c'est aussi pour le plus grand plaisir, évidemment. Ces gens, vous les entendrez parce qu'il y a des projets qui se mettent en place. Je peux encore en parler, mais les choses se mettent en place. En tout cas, tu as passé un bon moment?
Un super moment. Des questions surprenantes, mais des questions qu'il faut quand même réfléchir parce qu'on se dit, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais voilà, c'est un très grand moment. Et oui, il y a encore quelques qui t'attendent. Et ouais, normalement, on va passer un bon moment aussi à table.
En tout cas, je te remercie pour ton accueil. Et je vous le dis à bientôt parce que de toute façon, 2023 s'annonce être une grande année. Je vous réserve quelques petites surprises que je me garde bien, mais que je révélerai petit à petit. Je ne sais pas où on sera la prochaine fois. Il y avait Petolsheim qui est en cours de discussion, etc. Bon, on se verra. Dans tous les cas, vous avez nos réseaux sociaux. Je mettrai évidemment les réseaux sociaux également du Domaine Love. Et oui, on est en 2022. Il faut parler des réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Est-ce qu'il
Gesundheit.
Gesundheit.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.